Je suis heureux de vous accueillir, bienvenue encore dans ce lieu ce matin, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui nous visitent. N'hésitez pas à venir un petit coup devant ou à la sortie, on aimerait pouvoir faire connaissance avec vous. À moins que vous désiriez rester incognito, vous êtes libre aussi de le vivre comme ça, mais ça nous fera plaisir de pouvoir avoir un petit temps d'échange avec vous, en tout cas si vous le désirez. Ce matin, on va continuer notre série de messages intitulée « Moi et ma maison ». Et le désir au travers de cette série, c'est vraiment de voir petit à petit nos maisons s'ouvrir, des foyers entrer dans leur appel et briller dans cette ville d'Yverdon et dans cette région du Nord Vaudois. Alors, nous avons vu avec Jean-Jacques, il y a 2 semaines, faire de ma maison une montagne des oliviers. Vous pouvez réécouter bien sûr ces messages sur le site internet. La semaine dernière, nous avons parlé de faire de ma maison un lieu de réveil. Et puis ces choses, elles ne sont pas juste uniquement pour un dimanche. Donc on bâtit là-dessus, mais c'est toutes des choses qu'on désire, qu'on désire voir, qui sont applicables et qu'on désire voir prendre place dans nos vies et dans nos maisons. Et puis aujourd'hui, on va parler de faire de ma maison un lieu de discipulat. Mais avant d'entrer dans le thème, j'aimerais juste rappeler une ou deux choses importantes. Et j'espère que pour la plupart c'est clair, mais j'étais travaillé dans mon cœur, il me semblait juste de rappeler que simplement le Saint-Esprit aimerait nous encourager à avancer dans cette direction, mais c'est toujours l'Esprit qui fait la différence. C'est visité et poussé par l'Esprit, hein, comme un vent dans nos voiles, que nous pouvons avancer. Et si, au travers de cette série, vous vous sentez culpabilisé, j'aimerais vous dire que ce n'est pas juste, ce n'est pas le but, et ce n'est pas avec la culpabilité que Dieu veut que nous avancions. D'accord ? Mais je sais que Dieu il a de bonnes choses en réserve pour nous. Et c'est bon de garder ça à l'esprit, la perspective dans laquelle Dieu veut nous conduire, elle est merveilleuse, elle est bonne, elle est joyeuse. Donc l'idée c'est pas de faire des choses en plus pour faire plaisir au pasteur, surtout pas, ou pour être soi-disant un bon chrétien. Hein, mais c'est vraiment rentrer avec joie, poussé par l'Esprit dans sa destinée, pour nous et notre maison. Et puis je veux le rappeler aussi que je l'ai dit la dernière fois, mais le Saint-Esprit connaît nos vies, il connaît nos circonstances de vie, il connaît la saison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et puis, il va vous conduire au centre de sa volonté avec tous ces paramètres-là. D'accord ? Et il y a aussi cette réalité que Dieu, parfois, avec douceur, si vous êtes d'accord, je pense que vous l'avez tous expérimenté, il nous bouscule un petit peu. On n'aime pas trop ça, des fois. Est-ce que ça vous est déjà arriver d'aller à quelque part sans une grande motivation et puis revenir hyper content. Ça vous est déjà arrivé. Hein. Puis parfois, on le dit même à nos enfants, tu verras, une fois que tu y es, ce sera super. Ben, le Saint-Esprit, des fois, il fait un peu la même chose avec nous. Il doit nous bousculer un petit peu pour qu'on sorte de nos zones de confort. On n'aime pas trop, mais au final, waouh, c'était juste, c'était là qu'on devait être. Mais il ne force évidemment personne. Il nous titille juste un petit peu. Il dit, allez, je t'encourage, vas-y. Je suis avec toi. Voilà, ça me semblait important de rappeler juste ces choses en introduction. Et donc ce matin, j'aimerais vous encourager à faire de vos maisons un lieu de discipulat, un lieu où l'on fait des disciples. Alors, on entend de plus en plus ce terme discipulat. Peut-être certains se disent, mais c'est quoi ? Il ne me semble pas que c'est dans le dictionnaire. Donc on va essayer de l'expliquer un petit peu ensemble. Mais il y a une vraie question qui se pose. Bien sûr, discipulat, c'est faire des disciples, on peut dire juste comme ça, en deux mots. Mais il y a une vraie question qui se pose, c'est faisons-nous encore des disciples ? Et en fait, c'est pour ça que ce mot a commencé à apparaître. C'est parce qu'il y avait un constat que la réalité est plutôt négative, quoi. On ne fait plus vraiment des disciples. Les églises se sont focalisées sur leurs besoins internes, elles ont développé des programmes, puis peut-être qu'elles ont perdu un petit peu de vue la mission première. Donc voilà pourquoi ce mot est venu de plus en plus ces dernières années. Discipula, ça veut dire que ça nous rappelle que nous sommes appelés à multiplier. Quelqu'un a dit un jour, Jésus ne nous a pas dit « Allez et faites plus de réunions », mais « Allez et faites des disciples ». On va regarder ça en image. Amen. Tout est dit, hein? Alors j'ai essayé de vous expliquer un petit peu la dernière fois. Je crois que ce lieu-là, il est important. C'est important de se retrouver ensemble, c'est important d'être équipé. Mais ce n'est pas sans la vie dans nos maisons. Ce n'est pas sans vivre là où Dieu nous a plantés et faire des disciples. Alors ce matin, qu'est-ce que le discipulat ? C'est pas très compliqué parce que c'est ce que Jésus a fait, non ? C'est ce que Jésus a fait et à sa suite, il nous le dit donc d'aller et de faire des disciples. Et lorsqu'on regarde à l'exemple de Jésus sur le plan du discipulat, on regarde que Jésus avait même beaucoup de disciples. Hein. Parfois, on focalise juste sur les 12 et puis c'est aussi juste. Mais par exemple, en Luc 6, 17, il est dit « Il descendit avec eux » et s'arrêta sur un endroit tout plat où se trouvait une grande foule de ses disciples. Donc il n'y avait pas juste 12 disciples, Jésus il a fait beaucoup de disciples. Bien sûr, certains se sont peut-être retournés contre lui au moment de sa condamnation, mais il a fait à un moment donné des disciples. Et puis il a choisi plus particulièrement, comme dans un cercle plus restreint, d'investir dans 12 hommes que l'on pourrait appeler, selon peut-être la traduction latine, appeler « apprentis, élèves ». Et puis qui sont devenus des apôtres, des envoyés. Puis Jésus n'a pas seulement enseigné dans des synagogues, il l'a fait bien sûr, mais il a aussi enseigné des foules dans des lieux publics, et puis il vivait cette dimension du discipulat dans les maisons. Et on voit dans l'évangile de Marc qu'il est particulièrement dans la maison de Simon-Pierre et de son frère André à Capharnaüm. C'est un peu sa maison. C'est l'endroit où Jésus a fait son quartier général. Et puis, il se passe là plein de choses. Et on va juste regarder à quelques versets tirés de l'évangile de Marc. Marc 2, versets 1 et 2. « Quelques jours après, il revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. » J'aime bien voir comme ça. Il était à la maison, Jésus. Ça lui arrivait. « Et puis, il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. » Il leur disait la parole. Et puis après cela, il y a ces quatre hommes qui vont venir avec le paralytique, hein, puis ils vont le faire descendre par le toit parce qu'il n'y a juste pas possibilité d'entrer. C'était là, c'était à la maison. On peut dire dans sa maison, dans la maison de Pierre et d'André. Marc 3, 20, puis il revint à la maison et la foule se rassembla encore. Il ne pouvait pas même manger. Le pauvre, même pas le temps de manger. Ça vous arrive parfois? Si c'est pour les mêmes raisons, vous êtes tout excusés. Et puis, un petit peu plus loin, chapitre 7, verset 17. Lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule cette fois, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Donc il venait de se passer quelque chose dans un lieu public, il venait de donner une parabole, et puis là il se retrouve juste avec ses 12. Et puis ils vont commencer à l'interroger, à lui poser des questions, puis il va leur donner plus d'éclaircissement. Et puis un peu dans la même idée, au chapitre 9, verset 33, ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut à la maison, il se mit à leur demander, puis j'ai pas mis la suite, mais simplement pour qu'on comprenne que c'était le lieu aussi où il y avait de la discussion. C'était le lieu où il y avait de l'enseignement. Et on le voit très bien dans ces quelques versets-là. Dans cette maison, il y avait un lieu de guérison. La parole était lue. Des foules s'assemblaient à la porte, mais aussi c'était un lieu d'enseignement, de partage entre Jésus et ses 12 apprenants qui le suivaient de près, jour après jour. Dans tous les cas, il est important de se rappeler que c'est un modèle de discipulat que Jésus a choisi pour atteindre les nations. Ce n'est pas un modèle de programme, c'est un modèle de discipulat. Et nous pouvons avoir différentes méthodes, évidemment, peu importe à quelque part la méthode, mais le principe doit rester toujours. Nous sommes appelés à faire des disciples. Il a envoyé des disciples afin qu'eux, à leur tour, lèvent des hommes, des femmes pour la cause de l'Évangile. Et puis là encore, c'est dans les maisons que ça se passait, comme je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, et puis on en reparlera un petit peu aujourd'hui. Alors, le discipulat, c'est le fait d'investir dans la vie d'une ou plusieurs personnes afin, je l'ai mis comme ça, de l'aider à grandir en maturité. Ça peut être premièrement la maturité spirituelle, mais je crois que quand on se déverse dans quelqu'un, quand on investit dans quelqu'un, elle va pouvoir voir des choses qui vont toucher différents domaines de sa vie. Mais premièrement, maturité spirituelle. Afin de l'enseigner et de l'accompagner. Parfois, on est assez bon pour encourager la personne, dire « Ah ouais, il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu lises la Bible. » Mais on s'arrête là. Comment la personne peut faire si on lui dit juste ça? Elle ne sait pas comment lire la Bible. Elle a besoin d'être accompagnée, d'être enseignée. C'est aussi afin de, bien sûr, l'amener à une vie de disciple de Jésus. Pas de consommateur, mais de disciple. Et puis c'est ensuite pouvoir l'envoyer afin de multiplier. Alors si je devais résumer le discipulat en deux mots et demi, je dirais relation authentique et enseignement par l'exemple. Relation authentique, enseignement par l'exemple. Il y a aussi cette notion de modeler qui me paraît importante ou intéressante. Attention, modeler, ça ne veut pas dire mettre dans un moule. Ok ? C'est pas mettre dans un moule. Moi, j'aime pas trop les moules, d'ailleurs. Ni les moules frites, ni les moules tout court. Non, les moules, j'aime bien quand même. Enfin, voilà. Donc, c'est pas l'idée de mettre les gens dans un moule. C'est pas l'idée de les faire penser comme nous. Mais c'est vraiment cet enseignement qui se fait dans le partage de nos actions quotidiennes. C'est ça qui va modeler. Dans le livre Total Church, les auteurs, Tim Chester et Steve Timmis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ont dit ceci: nous avons remarqué dans notre contexte que la majeure partie de l'apprentissage ne découle pas de l'enseignement de programme, mais de conversations spontanées, parler de la vie, parler du ministère, parler des problèmes. Parler des problèmes, parler de la vraie vie, des choses qu'on vit vraiment. C'est ça, le discipulat. Donc, si vous me permettez le terme, discipuler, c'est partager ma manière de vivre ma foi avec quelqu'un. C'est lui laisser voir comment je mets en pratique la parole dans ma propre vie. Il faut bien sûr commencer par la mettre en pratique, hein. Ça c'est sûr. Mais comment je la mets en pratique? Puis comment je ne la mets pas en pratique, ça peut-être ça fait partie aussi. D'accord? c'est aussi lui partager mes réalités, mes luttes, mes joies, mes problèmes. Comment je les vis, ces difficultés-là? Comment je les vis avec Jésus? C'est ça qui va parler à la personne. C'est lui aussi lui transmettre de bonnes clés pour grandir, des outils pratiques, mais qui nous ont aidés nous-mêmes, pas des théories, mais du vécu, afin que la personne puisse en faire quelque chose dans sa propre vie. Et puis oui, c'est aussi lire la parole ensemble, régulièrement, saisir qu'est-ce que l'Esprit nous dit à nous aujourd'hui. Et si je te dis ce matin qu'on va vivre ça ensemble, peut-être tu vas dire « ouais », peut-être tu vas dire « oh oh », je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que pour vivre ces choses-là, tu vas devoir venir chez moi. C'est sûr. Je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire d'une famille qui, après le culte, reprend la voiture pour rentrer. Puis le mari est tout sourire comme ça. Et puis sa femme lui dit « chérie, tu peux arrêter de sourire, on est parti ». Juste pour dire, ça vous est jamais arrivé, hein, j'espère. Non, peut-être ça vous est déjà arrivé de pas trop sourire avant d'entrer, et puis qu'en entrant, il y a le petit coup de coude, puis allez, fais un effort, hein, chérie. C'est peut-être ça vous est déjà arrivé. Mais c'est chez nous qu'il y a vraiment la réalité de ce qu'on vit. C'est dans notre quotidien à la maison. C'est en regardant chez nous, vraiment, qu'on découvre qui on est. Donc ça doit se passer dans ma maison. Je ne peux pas dissipuler sans ouvrir ma maison. Donc faire de ma maison un lieu dissipulable pour l'extérieur, c'est ce que nous allons regarder maintenant. Au travers du livre des Actes, j'ai pris l'exemple d'un couple, Priscille et Aquilas, un couple d'impact qui a fait justement de leur maison un lieu de dissipulat. Alors moi j'aime beaucoup ce couple, je vous invite à lire ce chapitre, à essayer de voir les références qui sont faites dans les lettres de Paul. Et puis c'est comme si c'était très familier parce que non seulement ma sœur qui fréquente l'escale s'appelle Priscille, donc ça me parle. Alors bien sûr dans certains textes c'est Prisca, il y a les deux. Mais voilà, ça, c'est comme si j'ai l'impression de connaître Priscille. Et puis deuxième point très fort en Actes 18:2, il est dit que Aquilas est originaire du pont. Vous pouvez lire, c'est écrit ça, il est originaire du pont. Alors là, ça m'a tout de suite convaincu. Je dis vraiment, ce couple est proche, si proche. Non, pour être plus sérieux, Paul va rencontrer ce couple à Corinthe. Et puis le texte nous précise en Actes 18 qu'ils viennent d'Italie. En fait, ils ont dû quitter Rome. Parce qu'il y a eu un édit de Claude en 49 qui a ordonné à tous les Juifs de quitter la ville. Et puis c'était la raison est un peu obscure, mais on pense que c'était plutôt à propos de conflits, de tumultes au milieu des Juifs, à propos du christianisme. Donc ils sont d'origine juive, et puis ils sont très certainement chrétiens déjà au moment où ils rencontrent Paul. Et voilà qu'ils vont très bien connecter avec Paul parce que non seulement ils ont leur foi commune, mais en plus ils font le même métier. Alors vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui fait le même boulot que vous, vous êtes d'accord, généralement ça connecte. Hein, on a de quoi discuter. Si c'est des informaticiens, on ne comprend rien, mais ils ont leur langage, eux, ils se comprennent. Mais là, ben non, ce n'est pas des informaticiens, donc c'était des faiseurs de tentes, des fabricants de tentes. Et puis voilà que, en fait, Paul va travailler avec eux. Et Paul va aussi loger chez eux. Et je crois que ce couple est particulier pour Paul. Parce que généralement, Paul allait dans les maisons pour enseigner. Il allait pour donner. Et puis là, il est comme accueilli. Il est comme lui-même un peu discipulé, parce qu'il y a une relation de vis-à-vis. Ils ont une influence sur Paul par leur accueil, leur soutien et leur engagement pour l'évangile. Et dans sa lettre aux Romains, Paul va les saluer. Il dit « Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. saluer aussi l'église qui est dans leur maison. Donc là, on a même une information de plus, c'est qu'ils ont une église dans leur maison. Donc peut-être au moment de Paul, l'église n'était pas encore là. Mais à ce moment-là, il y a une église dans leur maison. Et puis, ils ont investi, ils ont finalement mis leur vie en péril pour Paul. Et c'est certainement à ce moment-là, à Corinthe, quand Paul a dû partir assez précipitamment, c'est probablement là qu'ils ont dû vivre quelque chose pour aider Paul. Donc ce couple a marqué Paul, ils sont une source d'inspiration, d'encouragement pour lui, alors qu'habituellement, c'est toujours lui qui est là pour encourager. Puis ça, c'est juste quelque chose que vous pouvez aussi imaginer. Parfois, vous pouvez accueillir des gens qui vous servent jour après jour, d'une manière ou d'une autre. Et puis des fois, on attend une parole d'eux, on attend quelque chose. Parfois, on peut aussi vivre l'inverse. C'est nous qui pouvons encourager. C'est nous qui pouvons bénir la personne qui souvent nous enseigne. Alors, je ne dis pas ça pour moi, hein, mais vous me bénissez jour après jour. Je vous dis. Mais c'est une réalité. Donc, je crois que dans ce couple, il y a un équilibre assez inspirant que Paul a dû percevoir. Non seulement il travaillait à fabriquer des tentes, il vivait l'hospitalité, il voyageait pour annoncer l'évangile. Ils ont fait par la suite plusieurs voyages à Rome, ils ont accompagné Paul aussi à Éphèse. Donc ils voyageaient pour l'évangile, et puis ils avaient, comme on le voit là, une église dans leur maison. N'est-ce pas un excellent modèle de discipulat? Priscille et Aquilas donc faisaient du discipulat en accueillant, en étant une source d'encouragement, en vivant une vie équilibrée et passionnée pour l'évangile. Et puis, en Actes 18, les versets 24 et 26, on voit aussi qu'ils ont une approche typique du discipulat envers Apollos. On lit ensemble. Un juif né à Alexandrie arrive à Éphèse, son nom est Apollos, il parle bien et connaît parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur. Avec beaucoup d'ardeur, il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus, mais il connaît seulement le baptême de Jean. Donc sous-entendu, il n'a pas été baptisé au nom de Jésus, il n'a pas reçu l'Esprit, le baptême de l'Esprit. Et puis il se met donc à parler avec assurance dans la maison de prière des Juifs, la synagogue. Et quand Priscille et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. Waouh ! Ils le prient avec eux, ils le prennent chez eux. C'est ça le discipulat. Ils le prennent là où il est. Alors il est déjà un peu avancé, Apollos. Puis vous n'aurez pas que des Apollos sur votre chemin. Mais ils le prennent là où il est et puis ils vont l'amener encore un peu plus loin, en lui transmettant ce qu'ils vivent, ce qu'ils savent. J'ai envie de dire, ils ont vu le potentiel brut d'Apollos. Hein, ils l'ont entendu, ils disent, ouais, il est éloquent, il sait s'exprimer, il connaît les Écritures. Ben, on va le prendre avec, puis on va l'amener un peu plus loin. On va le prendre sous notre aile. On va investir dans sa vie. Faire de sa maison un lieu de discipulat, c'est prendre avec nous, accueillir, transmettre. Alors ce matin, après que je vous ai dit déjà tout ça, j'aimerais vous demander, désirez-vous entrer dans cette dimension? Avez-vous déjà une personne dans laquelle vous investissez d'une manière intentionnelle? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Est-ce que quelqu'un grandit à vos côtés? Est-ce que vous partagez la parole avec quelqu'un? Qui peut entrer chez vous et voir comment vous vivez à la maison? Comment vous vivez Christ dans votre maison? Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. C'est souvent ça, on ne se sent pas capable. Qu'est-ce que je peux transmettre? Qu'est-ce que je peux dire? Laissez-vous étonner par le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de choses qui commencent à changer alors qu'on passe à l'action. Parce que ça nous encourage, nous. Ça nous motive aussi. Et bien sûr, si on attend d'être parfait, ben, je le dis souvent, mais on va attendre longtemps. Et puis c'est là aussi le mystère de Dieu. Il veut œuvrer avec vous et moi. Alors la semaine prochaine, vous entendrez des témoignages concrets de personnes qui ont fait de leur maison un lieu discipulat. Et puis pour ceux qui le souhaiteraient, j'aimerais aussi vous proposer une ou deux pistes pour le vivre. Mais mon troisième point ce matin, faire de ma maison un lieu de discipulat pour l'intérieur. Alors vous dites, mais pour l'intérieur, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'aimerais m'adresser un tout petit peu plus particulièrement dans ce dernier volet aux parents dans ce lieu. Parce que qui est déjà dans votre maison? Vos enfants. Et je crois pleinement que notre maison, notre famille, c'est le lieu numéro un que Dieu a voulu pour que nous vivions la dimension du discipulat. Dieu l'a voulu comme ça. Et vous voyez comme la famille est attaquée sur tous les fronts. Hein, beaucoup, vous avez peut-être même grandi dans une famille dysfonctionnelle, avec un seul parent, les divorces. La famille est attaquée. Mais je crois que c'était le lieu dans lequel Dieu aurait voulu qu'on puisse vivre le mieux cette dimension du discipulat. En Genèse 18, 19, Dieu dit à propos d'Abraham, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » Donc la bénédiction de Dieu pour le monde, l'accomplissement de sa promesse, s'appuyait sur un transfert, on peut dire une transmission de génération en génération d'un discipulat des enfants d'Abraham. Et puis dans Deutéronome 6, il y a ce fameux commandement que vous connaissez très bien, que Jésus reprend en disant « c'est le plus grand commandement qui résume toute la loi des prophètes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et puis juste après ça, il dit ceci, « Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, vivre, mettre en pratique les commandements du Seigneur semble ici débuter par l'enseignement à nos enfants. Puis là aussi, quand je dis enseignement, certains prennent peur. Mais je crois que la suite du verset nous aide, nous éclaircit. Parle-en quand tu seras assis. Parle. Si le terme enseigner te fait peur, ben enlève enseigner et puis parle. Simplement. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que la parole dit? Mais le point de départ, dans nos maisons, c'est dans nos maisons, auprès de nos enfants. C'est aussi intéressant de relire dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui est dit à propos des conducteurs spirituels? Dans 1 Timothée 3, versets 4 et 5, on connaît bien ça, surtout pour le pasteur. Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent avec respect. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Bonne question. Mais pour avoir une fonction de leader spirituel dans une Église, il faut déjà être un leader spirituel dans sa propre maison. Quelque part, c'est ça que le texte nous dit. Dr. Rob Reno, qui a développé un ministère qui s'appelle Visionary Family Ministries, dit ceci, quand ce texte parle de bien diriger sa propre maison, il ne fait pas référence au paiement des factures et à la tombe de la pelouse. Le contexte est celui d'un leadership spirituel. Et moi, j'aimerais dire que je ne crois pas que ça se limite à celui qui veut devenir ancien, berger, avec un ministère particulier. Je dirais que c'est d'autant plus important pour celui qui aspire à de telles charges, mais je crois que nous sommes tous appelés à vivre un leadership spirituel dans nos foyers. Et aujourd'hui, on doit quand même l'admettre, nous confions la formation spirituelle de nos enfants souvent uniquement à l'église locale. Et c'est bien, il y a des gens qui sont là dimanche après dimanche pour servir vos enfants, qui se donnent de la peine, qui sont encouragés. Et je sais que beaucoup de vous sont venus aussi à cause de ça. Je me dis, mais ouais, il y a quelque chose qui se fait pour les enfants qui est de qualité. Mais le risque, c'est que nous, parents, on soit passifs à la maison. On n'en parle plus. Ben, ils ont eu leur petit truc le dimanche, c'est bien. Et puis parfois, certains vont dire, bon, moi j'ai investi quand même pas mal pour mon gamin parce que j'ai fait le taxi, mais pour le groupe de jeunes, mais franchement, le nombre de vendredis soirs que je me suis déplacé jusqu'à l'escale pour l'amener au groupe de jeunes, et je peux que vous encourager à le faire, c'est juste. Je peux vous dire, ma mère, elle en a fait des trajets pour moi, elle a fait le taxi, puis elle a bien fait de le faire, c'est certain. Mais ce n'est pas suffisant si rien ne se vit à la maison. Ta maison est appelée à devenir un lieu de discipulat, et ça commence par tes enfants et ta famille. Vous êtes encore là, ça va? J'ai plus de salive. L'éminent prédicateur Charles Spurgeon du 19e siècle, c'est un peu dans le style de Charles Finney dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il a écrit ceci, et puis c'est aussi trash comme la semaine dernière. Yes. La famille chrétienne était le rempart de la piété à l'époque des puritains. Mais dans ces temps mauvais, des centaines de familles soi-disant chrétiennes ne vivent pas de culte familial, ne mettent en place aucune discipline. J'ai rajouté pour que vous compreniez, c'est pas la baguette, hein, c'est au sens de discipline spirituelle, ni instruction et aucun frein sur leurs fils en pleine croissance. Comment pouvons-nous espérer voir le royaume de Dieu avancer si ses propres disciples n'enseignent pas l'évangile à leurs enfants? Et puis, un autre article que j'ai lu disait ceci. L'appel « Faites des disciples » commence d'abord dans nos maisons. En tant que parents, c'est notre responsabilité spirituelle de faire de nos enfants des disciples et de leur transmettre notre foi. Alors bien sûr, vous allez me dire comment, et puis je vais y venir. Mais en tout cas, pas à coup de Bible. Souvenez-vous des deux mots et demi, relation authentique, enseignement par l'exemple. Ça, c'est la base. L'idée là, ce n'est pas de venir dans un format religieux. Et puis j'espère que les pistes que je vais vous donner vous détourneront de ça. Mais tout ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du discipulat peut se vivre dans la famille. Puis je vais peut-être le redire rapidement. Partager ma manière de vivre ma foi. Mes enfants, ils ont besoin de comprendre comment moi je vis ma foi. C'est bien joli de voir papa devant le dimanche. Mais comment je le vis en fait au quotidien? Lui laisser voir comment je mets en pratique la parole dans ma propre vie. Ben, parfois c'est dur. Puis j'ai besoin de prière, j'ai besoin d'encouragement. Puis ils vont le voir, ils vont l'entendre. Partager mes réalités, mes luttes, mes joies. Ben, dire aussi ben, un sujet plus difficile, à la mesure de son âge, qu'il peut comprendre sans qu'il ait lui-même peur, ou bien qu'il va lui-même prendre le poids et commencer à le porter. Attention à ça. Mais il y a des choses qu'on peut partager à un enfant de 8-10 ans. Transmettre des bonnes clés pour grandir, des outils pratiques qui nous ont aidés nous-mêmes. Est-ce qu'on se met des fois à leur place? Comment ça se passait pour moi à cet âge-là? Qu'est-ce qui, moi, m'a aidé dans cette période qu'il traverse? Est-ce qu'on peut lui transmettre ça? De nouveau, pas des théories, mais du vécu. Lire la parole ensemble, régulièrement. Et puis aussi dire, mais qu'est-ce que Dieu nous dit à nous? Qu'est-ce que Dieu te dit à toi, dans ton contexte, dans ton âge, dans ta période de vie? Alors, plus pratiquement, j'aimerais vous partager avec vraiment humilité, parce que c'est vraiment le cas, et puis voilà ce qu'on a, nous, essayé de mettre en place en tant que famille, pour que notre maison soit pour nos enfants un lieu de discipulat. Puis je dirais, ça ne fait pas longtemps, je crois qu'il y a eu un peu une conscientisation, peut-être il y a une bonne année en arrière, où on s'est dit, je crois que maintenant c'est le temps qu'on mette quelque chose de plus régulier en place pour nos enfants. Et puis je suis certain qu'il y a d'autres parents qui le vivent et qui pourront aussi partager leurs idées. Et puis il faut aussi pas oublier que selon la taille de la fratrie, les différences d'âge, ben, c'est pas facile de rejoindre tout le monde. Donc il faut aussi l'accepter. Il y a des saisons, des moments, et puis il faut que ce soit pas trop long, c'est sûr. Alors chez nous, on a instauré premièrement une soirée festive. C'est cool ça, hein? Une soirée festive. Vous pouvez pas venir parce que c'est juste pour notre famille. Désolé. Donc généralement, c'est le vendredi soir. Puis c'est un moment où ensemble, on va par exemple manger un repas particulier. Puis là, quand je dis particulier, il n'y a pas besoin que ce soit gastronomique avec les enfants. Hein. Ça peut être juste des crêpes, quoi. C'est juste festif, multi-crêpes, là, ils aiment ça, trop bien. Mais voilà, quelque chose de sympa, ou bien un dessert sympa, quelque chose qui nous fait plaisir. Mes enfants aiment beaucoup la fondue, c'est des vrais Suisses. Donc même Mathias, qui a 2 ans, franchement, il mange beaucoup de fondue. Donc c'est assez impressionnant. On est, je pense, plutôt à 1,5 kg qu'à 1,2 kg. Et ils sont en croissance. donc voilà, à présent, un repas particulier. On fait parfois, on regarde un film parfois ensemble le vendredi soir, bien sûr adapté aux âges. Et puis là aussi, c'est des fois un challenge de trouver quelque chose qui correspond à tous. Alors c'est vrai que le dernier 2 ans, pour le film, parfois il est déjà plus là, ou bien il est déjà au lit. Mais on mange des chips sur le canapé, on prend des pop-corns, quoi. C'est le moment où on peut salir le canapé, quoi. C'est chouette, ça fait partie aussi de temps en temps de ça. Donc prenez, investissez pas trop vite dans un canapé onéreux, parce que ça ne vaut pas la peine. Vous le ferez quand ils quitteront la maison. Parfois, c'est un jeu de société qu'on peut faire ensemble. Voilà, le Uno, quelque chose comme ça. Il y a des Uno pour les différents âges, qui viennent bien comprendre, etc. Donc voilà, un jeu de société, on est tous autour de la table, c'est important. Et puis parfois, c'est une sortie sympa. On va quelque part. Puis ben là, bien sûr, ça demande un petit peu de mettre la main propre monnaie, parce que c'est trop difficile de trouver des choses qui ne coûtent rien, malheureusement. Mais voilà, une sortie au bain d'Yverdon, hein, de temps en temps, ça fait du bien, ça détend. Et puis, faut y aller à des heures où il n'y a pas trop d'aînés. Mais les aînés vont le matin, généralement, donc le vendredi soir, ça se passe bien. Voilà. Et puis, les photos sont interdites, si jamais ma femme a fait l'expérience aussi. Donc, laissez l'appareil au vestiaire. Donc ça, c'est la partie festive, vivre quelque chose en famille. Mais on transmet des choses, on transmet la joie, on transmet ce qu'on vit. Et puis, le dimanche soir, on essaye aussi d'avoir, après le souper, un petit temps où on chante juste un ou deux chants. On prend souvent les mêmes, qui connaissent bien, qui puissent chanter avec nous. Et puis ensuite, on partage un verset. On partage juste un verset, une promesse de Dieu qu'on va essayer de garder pour la semaine. On va la mettre, l'afficher dans notre cuisine. Et puis, comme ça, elle va nous accompagner durant la semaine. Puis, on prie ensemble. Puis là, des fois, c'est un combat. Parfois, c'est un petit peu dur parce qu'il y a un peu de fatigue, etc. Donc, on fait court, on vit la liberté. Et puis, si une fois, c'est trop tard, c'est trop tard. Si une fois, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. C'est pas le cadre rigide où il va falloir gueuler pour que ça se passe, quoi. Parce qu'autrement, on a tout cassé. Hein. Mais malgré tout, on remarque que c'est quand même là, à ces petits moments, qu'il y a un enjeu. C'est bizarrement là que... j'ai pas envie. Et on persévère, mais on essaye de le vivre vraiment dans un cadre de liberté. Voilà ce qu'on fait. Et puis, c'est ce qu'on a choisi de vivre. Ce ne sera pas la même chose pour vous. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Mais je ne peux que vous encourager à prendre ça au sérieux. C'est nous les leaders spirituels de nos foyers. Commençons par faire de notre maison un lieu de discipulat pour nos enfants. Et pour ceux que ça pourrait intéresser et motiver, j'aimerais aussi vous proposer de créer un petit groupe WhatsApp spécial famille, là on est dans le concret, pour s'encourager dans nos défis. Donc comment ça marche? Voilà, à la sortie, tu peux t'inscrire sur cette liste. À ta droite, il y a 2 listes. Et puis l'idée, c'est que tu reçoives un verset justement au début de ta semaine, que tu vas pouvoir partager avec tes enfants. Et puis ensemble, sur le groupe, on peut partager comment on l'applique, comment on peut le vivre. Et là, ce serait chouette d'avoir un échange. Et puis, si vous avez un sujet de prière pour l'un de vos enfants, alors aussi sur ce groupe, vous pouvez juste le dire, sans étaler le sujet, sans donner trop de détails. Mais les amis, on soutient, priez pour Maë, priez pour, peu importe le prénom, priez. Et puis, tac, on prie pour nos enfants. Voilà, donc ceux que ça intéresse, vous pouvez vous inscrire. Ça va? Alors j'aimerais maintenant terminer. Moi et ma maison, ça nous concerne tous. Nous avons un foyer, un lieu de vie que le Saint-Esprit aimerait visiter pour en faire une montagne des oliviers, un lieu de réveil, un lieu de discipulat. Qui est cet Apollos dans ta maison? En qui vas-tu déverser ton cœur? Est-ce que vous réalisez ce matin le potentiel que Dieu a déposé en vous? Quel impact avons-nous dans la vie de nos enfants? Est-ce que nous sommes des leaders spirituels dans nos maisons? Est-ce que ton foyer est un lieu de discipulat pour tes enfants? Et si vous êtes d'accord avec ces deux questions, je vous propose juste qu'on puisse se lever dans ce lieu ensemble et puis qu'on puisse demander au Saint-Esprit de nous toucher, de nous parler, d'ouvrir nos cœurs sur nous, sur nos foyers, pour que nous puissions entrer dans cette dimension-là. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, on t'accueille maintenant, ensemble. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs à ton action dans nos vies, à ton action dans nos maisons. Seigneur, on te laisse venir ouvrir nos portes. Saint-Esprit, je prie que dans ce temps maintenant, tu puisses parler, que tu puisses donner de la créativité aux uns et aux autres pour que nous puissions agir selon ta volonté, selon ton cœur, dans le contexte dans lequel tu nous as placés. Seigneur, que tu puisses nous donner des personnes à cœur, une personne à la fois, mais une personne à qui je vais pouvoir donner ce trésor, déverser ce que je vis, parler, transmettre dans la relation, dans une relation authentique. Seigneur, suscite, donne des noms maintenant. Parle. Seigneur, je veux t'apporter les parents dans ce lieu, les papas ou les mamans aussi qui se démènent seuls avec leurs enfants. Seigneur, je prie que tu les inspires pour qu'il y ait ce temps de rassemblement autour de toi, pour que dans ce lieu que tu aimes, que tu as voulu, la famille, ils puissent grandir, qu'ils puissent apprendre de toi, pas des principes religieux, mais comment on peut vivre avec toi, comment on vit notre foi. Seigneur, tu encourages les uns et les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Si l'un ou l'autre veut répondre.